m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
oui. Avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans ce Restons Courtois, animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis Marc Hainaut et je suis en plateau en compagnie de Jérémy Bouy, entrepreneur éditorialiste. Bonsoir Jérémy.
Bonsoir Marc, bonsoir Valentin, bonsoir à tous.
Et Valentin Gorge, journaliste au service politique de Valeurs Actuelles. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Marc et bonsoir à tous.
Un sommaire assez chargé puisque avec mes invités nous allons débattre de plusieurs sujets. Il y a évidemment ce scandale du périscolaire parisien qui s'invite dans la campagne, évidemment dans la campagne municipale. On va aussi parler de cette crise internationale duquel découle une crise de l'énergie. En effet, le prix de l'énergie explose, le prix de l'essence augmente. On rappelle que les gilets jaunes se sont mobilisés pour moins que cela. C'est au sein de l'exécutif, on craint d'ailleurs un retour de cette contestation sociale. On va parler d'énormément d'autres sujets. À 18h05, nous ferons un point avec Nicolas Boutin sur évidemment le premier tour des élections municipales. Avec lui, nous parlerons des villes que la droite va tenter de conquérir. À 18h30, nous recevrons l'essayiste Rodolphe Carr, auteur d'un essai sur Jean-Luc Mélenchon. Avec lui, nous reviendrons justement sur la partie gauche de ces élections municipales, notamment sur la tentative de retour aussi de François Hollande. L'ancien président de la République, évidemment, opère un retour politique en vue de se placer par rapport à l'élection présidentielle de 2027, où là cette phrase était vraiment inélégante. Et à 19h, nous recevrons l'essayiste Jacques de Guibon qui nous revient avec un essai publié aux éditions Desclés de Brouwer, un essai où il revient sur plusieurs personnalités du pacifisme, en effet, avec l'ancien, avec le cofondateur de l'Incorrect et théoricien de l'anarchisme chrétien. Nous reviendrons sur ces différentes figures qui prônent la non-violence en ces périodes politiques assez troublées. L'essai ne manquera pas de faire réagir. Il s'appelle Prophète sans armes à travers plusieurs personnalités comme Simone Veil, comme Martin Luther King et d'autres, et Dorothy Day notamment, ainsi que Hans et Sophie Scholl, Baudouin et Jacques de Guibon reviendront sur ces personnalités et sur la non-violence en politique. Vous l'avez vu, un sommaire riche, un sommaire où nous finirons par parler effectivement de la paix, mais qui va s'avérer assez tendu pendant cette première heure, tant l'actualité est tendue elle-même. Vous pouvez évidemment réagir à cette émission à l'adresse courriel courtoisie@rc.fr ou par téléphone au standard. Dès que j'aurai retrouvé le numéro du standard, je vous le communique évidemment, je vous le rappelle dans quelques instants. Ah voilà, c'est bon, 0146 51 00 85.
Il est 18h05, nous prenons Nicolas Boutin.
On me fait signe en régie que tout va bien, on me fait signe aussi de lancer l'émission.
Il est 18h05, Nicolas Boutin est en ligne.
C'est exactement ça, c'était beaucoup trop long. Pardon chers auditeurs, merci de votre patience. Jérémy Bouy, vous qui êtes parisien.
Voilà.
On ne doit trahir aucun secret.
Je précise pour mes amis lyonnais, parisiens d'adoption, mais toujours lyonnais de cœur.
Voilà. Et en tout cas, est-ce qu'on ne va pas trahir de secret, vos enfants sont scolarisés dans les écoles parisiennes.
Dans les écoles publiques parisiennes, mon cher Marc. Trois de mes quatre enfants.
Donc on espère que vous n'avez pas de témoignages glaçants à nous fournir ce soir, Jérémy, puisque nos éditeurs se doutent de ce dont nous allons parler.
Évidemment.
L'affaire de pédophilie au sein du périscolaire parisien, des alertes qui tombent depuis plusieurs mois et qui se font beaucoup plus pressantes avec en effet, qui sont d'autant plus présentes parce qu'elles commencent à être systémiques vu le nombre d'animateurs mis en cause et surtout l'absence de réaction de la mairie de Paris, l'absence de réaction de la classe politique évidemment interpelle. Jérémy Bouy, comment vous réagissez vous, mais déjà en tant qu'observateur de la vie politique mais aussi en tant que père de famille.
Et en tant que père évidemment je suis aux premières loges, je vais répondre en deux temps. Premièrement, je m'étonne que ce sujet ô combien important ne surgisse qu'à 4 jours du premier tour d'une élection municipale parisienne. Donc là j'incrimine à la fois la gauche qui sans doute a essayé, autant que faire se peut, de cacher la poussière sur le tapis, mais aussi bien la droite également, qui n'a pas fait son travail d'opposition et qui aurait dû, à mon sens, se saisir de ce sujet bien plus tôt. Maintenant, bon, pour revenir dans ma peau de père de famille, bon, vous savez, j'ai pas été confronté, en tout cas pas que je ne le sache, à des faits d'une telle gravité. En revanche, oui, j'ai pu constater, vous l'avez évoqué, depuis un certain nombre d'années, un certain relâché, si je peux utiliser ce terme, dans le recrutement du personnel du périscolaire. Mmh. Où effectivement, moi, j'ai très souvent croisé à quelques mètres de la sortie d'école des animateurs, puisqu'il faut les appeler animateurs, ils ne sont pas enseignants, fumant des pétards. Et voilà, c'est, ça c'est les choses les plus graves.
En fait,
ouais, mais à 10 mètres, quand vous êtes à 17h30, 17h35, ça fait 5 minutes avant, ils étaient avec vos enfants et ils sont 100 mètres plus loin et ils ne se cachent pas. Voilà, et si vous voulez, je constate de plus en plus de recrutement de jeunes gens au look absolument débraillé, avec des tatouages, y compris sur le visage, avec des boucles d'oreilles de partout, dans le nez, dans les oreilles, dans les lèvres. Une tenue vestimentaire qui est selon moi absolument pas appropriée pour venir travailler au contact d'enfants en bas âge. Donc là, pour le coup, je distingue absolument l'apparence physique de quelqu'un et son âme. Et je dis pas que quelqu'un de mal habillé a forcément un penchant pour la pédophilie, mais je veux évidemment.
Autrement, il faudra interdire la France insoumise, Jérémy.
Je veux quand même pointer, voilà, se relâcher dans ce relâchement, dans le recrutement de ce personnel qui, encore une fois, a une mission extrêmement importante puisqu'ils encadrent nos enfants de 16h30 à 18h au moment où on revient les chercher.
Valentin Gore, c'est vrai que... Alors, pour tempérer un petit peu ce que dit Jérémy Bouy, il y a quand même des élus au Conseil de Paris qui portent ce combat depuis des mois. Je pense notamment à la conseillère de Paris, Inès de Ragnel, qui est dans l'équipe de Rachida Dati. C'est vrai que c'est des sujets... On a l'impression qu'il y a une ou deux voix au Conseil de Paris qui ont commencé. Alors, à tout seigneur, tout honneur, et il faut le reconnaître, Sophia Chikirou a fait partie des premiers à avoir alerté sur cette problématique-là. La Gaulle, le Parti Socialiste qui tient la mairie de Paris depuis 15 ans, a tout fait pour cacher ce scandale, Valentin.
Oui, bien sûr, ça résulte, à mon sens, et de ce que j'ai pu en lire, notamment sous la plume de Pauline Condomine, qui est journaliste des Valeurs Actuelles et qui avait... Je commence par ce placement parce que c'était vraiment une enquête intéressante. Mais plus largement, je dirais que pour m'intéresser un peu à la mairie de Paris, on a bien vu qu'il y a un très grand problème, de façon générale, de ressources humaines. Vous parliez de Rachida Dati, moi j'ai souvenir d'un événement de campagne il y a quelques semaines de cela, où Rachida Dati, qui se promenait dans le Marais, rencontrait des femmes qui vivaient tout à fait dans la rue, et qui, en interrogeant l'une d'elles, s'est rendu compte que cette femme qui dormait dans la rue et travaillait la journée en crèche, dans une crèche du 20e arrondissement. Donc ça vous montre, c'est un exemple, mais ça vous montre à quel point ces employés de la mairie de Paris, on a souvent tendance à droite d'attaquer les fonctionnaires. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont des contrats très précaires, qui, vous l'avez dit, c'est le problème du périscolaire, ne sont pas ni en CDI ni en CDD, ont des espèces de contrats de quelques heures par semaine.
Et n'ont aucun diplôme en lien avec l'enfance, pas un diplôme de moniteur de colo.
Parce qu'on a besoin de que quelques heures par semaine, donc on emploie, c'est vrai, absolument n'importe qui. Le Parisien avait fait là aussi une enquête, ou BFM TV, je ne sais plus. On se rend compte qu'on peut comme ça, en quelques minutes quasiment, parfois se retrouver dans une crèche au contact d'enfants sans qu'il vous soit demandé de casier judiciaire, par exemple. Donc c'est tout à fait alertant, surtout dans une ville comme Paris, qui est une grande ville, et je crois que ça a aussi rendu possible l'ampleur du scandale, puisqu'à Paris, si vous avez un problème, par exemple, au but de Chaumont, il vous suffit de muter la personne dans le 15e et c'est quand même plus facile à cacher ou à déplacer le problème que dans une petite ville de province où les choses se sont plus rapidement connues. À Paris, comme c'est une très grande ville, on peut masquer les choses, notamment avec la bureaucratie qui a un rôle dans cette affaire aussi.
Si des pères et des mères de famille, évidemment, ayant leurs enfants dans l'école publique parisienne, souhaitent témoigner, bien évidemment, ils peuvent nous écrire ou appeler le standard, on lira leur témoignage à l'antenne. On en parlera tous ensemble. C'est vrai que c'est toujours le drame, Jérémy Bouy, en fait, des personnes recrutées sans diplôme, sans qualification, et évidemment, dans des métiers qui sont en contact direct avec des enfants sans beaucoup de surveillance, c'est évidemment la porte ouverte aux pédophiles, en fait.
Évidemment, alors, on ne va pas contenir la pédophilie dans le cercle très fermé des personnels qui s'occupent des enfants, la petite enfance, mais effectivement, c'est une porte ouverte, comme vous l'avez dit, à partir du moment où vous allez piocher dans la cour des miracles pour boucher les trous et remplacer les gens qui s'en vont, qui n'a absolument pas de filtre en amont, vous êtes vous placez en position de subir absolument les pires profils, sans aucun contrôle et ni moyen d'action.
Alors il y a l'autre sujet évidemment, et peut-être une des raisons pour lesquelles la droite parisienne s'en est emparée, mais on va dire de manière assez modérée, c'est qu'il y a évidemment beaucoup de cas aussi qui sont dans le 7e arrondissement, l'arrondissement de Rachida Dati et maire, ce qui pose évidemment la question. Alors là j'avoue, je mets vraiment de grandes précautions dans ce que je veux dire, puisque je ne sais pas en réalité si les écoles publiques si le recrutement du périscolaire dépend des mairies de secteur ou de la mairie centrale.
Pas tellement, non.
Auquel cas évidemment il y a il y aurait peu de choses à reprocher à Rachida Dati. Néanmoins, on voit que tout cela en réalité se retourne contre Emmanuel Grégoire. On l'a vu communiquer en urgence, le candidat socialiste à la mairie de Paris, communiquer en urgence en disant que ce sera son dossier prioritaire lorsqu'il sera, si jamais il est amené à diriger la mairie de Paris. Mais Emmanuel Grégoire qui au final n'a pas tant souffert que cela politiquement d'avoir été le premier adjoint d'Anne Hidalgo pendant 10 ans et qui a par définition une responsabilité énorme dans le camouflage de cette affaire sordide, Jérémy.
Oui, parce qu'il a été très peu attaqué politiquement. On l'a vu, la campagne pour cette mairie de Paris s'est beaucoup jouée sur les réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de, excusez-moi pour cet anglicisme, voilà, on s'est concentré sur le storytelling.
Sur le récit politique.
Sur le récit politique, voilà, avec des campagnes qui ont été très bien faites par des candidates de droite, mais on ne s'est pas attaqué vraiment au bilan, au passif politique du camp du Parti Socialiste. Et j'ai trouvé, comme vous, que M. Grégoire était passé entre les gouttes et qu'il aurait été davantage intéressant et pertinent politiquement de le confronter au bilan d'Anne Hidalgo qui est le sien.
Mais ce qui est dingue, c'est qu'on voit, moi qui suis beaucoup la campagne d'Emmanuel Grégoire et celle de Sophia Chikirou, ce qui m'a beaucoup frappé chez Emmanuel Grégoire, c'est qu'on voyait ses publications sur les réseaux sociaux, telle personnalité soutient Emmanuel Grégoire, telle personnalité. Il y avait cette campagne, on voit des visages, des noms, et en fait, on s'aperçoit quand on fouille un petit peu, je rends hommage d'ailleurs au compte X Enzo Morel qui, alors je ne sais pas qui est derrière ce compte, je ne sais même pas s'il s'appelle vraiment Enzo Morel. En tout cas, il fait un travail dingue de compilation de données. On s'aperçoit que parmi ces personnalités, il y en a énormément, dont les œuvres, les associations, les projets culturels, etc., dépendent évidemment très très largement des subventions de la mairie de Paris. Et c'est vrai que Emmanuel Grégoire, en plus en ayant été l'ancien premier adjoint d'Anne Hidalgo, on a l'impression qu'il est quand même au cœur d'un espèce d'état féodal où finalement tout le monde se subventionne, s'arrose, se rend service, et ce qui fait que la mairie de Paris est un bastion difficilement attaquable, Valentin.
Oui, bien sûr, vous avez raison. Il y a un système, notamment aux subventions. Donc là, c'est le moment où il faut signaler son soutien au système socialiste qui, à Paris, perdure depuis 2001. Et hélas, à mon avis, est bien parti pour perdurer encore 6 ans de plus, au vu des éléments que nous avons. Mais nous verrons bien dimanche. Vous parliez d'Emmanuel Grégoire. Moi, je veux aussi dire qu'il a été non seulement premier adjoint d'Anne Hidalgo, ça c'est sûr, mais il a été aussi un temps, je crois plus de 2 ans, adjoint spécifiquement aux relations humaines, qui est connu à la mairie de Paris comme étant la délégation vraiment la moins gratifiante, parce que c'est vrai que vous faites le sale boulot, il n'y a aucun intérêt électoral à aller chercher à occuper cette délégation. C'est une délégation vraiment très compliquée, parce que vraiment je reviens sur une organisation, c'est un problème d'organisation à la base, où on voit bien que le travail n'est pas fait. On parle de la petite enfance quand on voit que dans des pays du nord de l'Europe, comme au Danemark, ce sont des filières d'excellence. Effectivement, on pourrait se dire que ça serait peut-être vraiment un progrès pour une ville comme Paris, et même partout en France, de renforcer ces filières qui aujourd'hui en France sont à l'abandon, alors qu'elles sont fondamentales. Parce qu'évidemment, quand vous êtes au contact d'enfants, il faut non seulement que vous soyez irréprochable, mais en plus, ce sont des compétences particulièrement importantes, notamment à l'école maternelle, où l'on sait qu'il se joue énormément avant même l'entrée en CP.
Mais ça, en fait, on va être un petit peu provocant, et je suis désolé d'avance pour les personnes de bien qui font ce métier-là et qui n'ont rien à se reprocher, mais ça pose aussi la question de la présence d'hommes, en fait, dans ces structures, tout simplement.
Évidemment, en
crèche et dans les collectivités en rapport avec la petite enfance, etc. Alors, bien évidemment, je vois qu'il y a eu des enfants dans des crèches municipales, publiques, privées, qui ont un petit peu tout testé, tous les professionnels masculins qui travaillent dans ces structures, ils étaient irréprochables, ils étaient extrêmement compétents, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, ça pose question.
C'est une présence qui interpelle, évidemment, parce qu'on aurait tendance à penser qu'une femme est beaucoup plus portée justement sur ce... Oui,
Elle peut être maltraitante,
on a vu des tas de femmes dans l'histoire qui ont maltraité des enfants. Dernièrement, je crois qu'une femme a été jugée pour avoir fait boire à Lyon du desktop à une petite fille de 6 mois qui en est morte. Mais effectivement, votre question est intéressante, Marc, alors je ne sais pas comment juridiquement on peut s'attaquer à ce problème, mais ça interpelle, et nous tous, spontanément, on a beaucoup plus de facilité à imaginer nos enfants dans les mains de femmes que dans les mains de jeunes hommes de 25 ans, encore une fois, avec des looks parfois très débraillés.
Les stéréotypes de genre ont la vie dure, et on va quand même pas plaisanter sur ces sujets sordides.
Bien sûr, mais je crois que vous avez raison, Jérémy, quand vous parlez des drogues, ça serait aussi peut-être bien qu'au moins une fois par an, il y ait dans ces structures des contrôles antidrogue pour s'assurer que les gens qui sont au contact d'enfants, effectivement, ne sont pas sous l'effet de substances. Je ne suis pas sûr que ça soit aujourd'hui contrôlé suffisamment pour employer vraiment un euphémisme.
On est d'accord. Et je termine sur cette dernière anecdote qui me revient à l'esprit. En 2017, ma fille aînée avait 4 ans. Et elle est revenue de l'école en nous disant qu'il fallait faire barrage à Marine Le Pen. On était, imaginez, entre deux tours. Et quand je lui ai demandé d'où venait cette brillante idée, évidemment, elle lui avait été soufflée par le personnel périscolaire qui avait passé sa semaine à endoctriner les gamins de 4 ans. Ouais. Et voilà, je ne vais pas faire de dessin, mais un garçon, a priori un peu plus véhément que les autres, qui avait m'expliqué que si Marine Le Pen gagnait le dimanche du second tour, le lundi matin, il serait absent puisqu'il aurait été... renvoyé dans son pays d'origine. Voilà. Donc voilà ce qui avait été raconté donc en établissement public à la mairie de Paris à ma fille de 4 ans.
J'espère que les vérificateurs et autres fact-checkers se sont rendus dans cette école pour vérifier les informations de cet enfant. C'est très amusant, cette politisation des enfants. Moi, mon fils est né de 5 ans. Il ne sait même pas que le président de la République s'appelle Emmanuel Macron. Il ne sait pas ce que c'est qu'un parti politique. Enfin bon, bref. On va s'éloigner un petit peu de Paris et aller dans les premiers ronds-points de la Grande Couronne et dans tout le reste de la France, puisque crise internationale oblige, guerre entre Iran et Israël oblige, le prix de l'essence augmente drastiquement à la pompe. Quand on lit la presse internationale, on s'aperçoit que c'est de fait devenu un sujet presque typiquement français, 100% français. C'est évidemment la crainte pour l'exécutif de voir ressurgir un mouvement des Gilets jaunes. Effectivement, quel cruel symbole de voir le premier quinquennat d'Emmanuel Macron commencer avec cette crise et le deuxième terminer avec une autre crise de ce genre. L'Élysée prend cela très au sérieux, l'exécutif prend cela très au sérieux. Alors, toi, avec un litre de diesel qui est passé au-dessus des 2 euros, est-ce qu'on peut craindre, espérer peut-être aussi d'ailleurs, une seconde crise des Gilets jaunes, Jérémy Bouy?
Alors, je n'y crois pas. Vous savez, on a notamment pendant le Covid beaucoup annoncé un retour des Gilets jaunes renforcés. On a prédit beaucoup de choses. Les Gilets jaunes ne sont jamais revenus. Je pense qu'il y a eu une crise des Gilets jaunes, comme il y a eu un mai 68, comme il y a eu un seul Woodstock. Je vais vous dire ce sur quoi je m'appuie. Pour moi, en 2018, donc au moment où les Gilets jaunes ont explosé, la lune de miel entre l'enfant prodige, le Mozart de la finance, et la classe politique dans son ensemble, la classe médiatique et l'économie, la finance française, tous les voyants étaient au vert. Et si vous voulez, Emmanuel Macron n'était absolument pas contesté sur le plan diplomatique. La situation, déjà, l'économie française allait plutôt bien. Sur le plan diplomatique, il avait reçu Poutine à Versailles, tout le monde avait trouvé ça fantastique. Il était allé tripoter Donald Trump, qui était déjà président à l'époque, à la Maison-Blanche. Les Français... L'été précédent, cette crise avait gagné la Coupe du Monde de football. On n'avait vu que lui dans les vestiaires, avec son torse luisant. Si vous voulez,
Alors, pas son torse à lui, quand même.
Voilà, mais qui.
Non, lui, il était sous la pluie.
Et vous rappelez-vous de ces images. Il était sous la pluie avec sa chemise blanche, parce qu'il n'avait plus au moment de la remise du trophée. Il avait la chemise collée. Il était, on va dire, très tactile et très proche.
Plein de choses qu'on a oubliées.
Ce que je veux dire par là, c'est que, encore une fois, l'image d'Emmanuel Macron était tellement haute que je pense que des gens. On jouait cette carte de la violence, il faut utiliser le mot tel qu'il a, la situation, c'était un début d'insurrection. Je pense que des gens n'avaient plus rien à perdre et ont considéré que la seule carte à jouer, c'était pas les urnes, c'était pas le récit calme, la démocratie, la République, c'était justement de renverser la table, comme les patriotes pro-Trump l'avaient fait au moment de la défaite de Trump face à Biden. Quand ils avaient déguisé en Indien, rappelez-vous, attaqué le Capitole.
Le Capitole, c'était effectivement en 2020.
En 2020, dans la foulée de la défaite de Trump.
Donc c'était après les Gilets jaunes.
Aujourd'hui, l'image d'Emmanuel Macron est complètement démonétisée. Le roi est nu. L'économie française, on le sait, va très mal. C'est-à-dire qu'à l'inverse de mon explication, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui puisse aujourd'hui sauver Emmanuel Macron. Donc je vois pas et j'ai oublié de le dire, on a une élection présidentielle qui se profile dans un an avec une possibilité pour les gens de renverser la table par le biais d'un bulletin de vote. Donc si vous voulez, je vois pas aujourd'hui de raison qui pousserait des Français enragés, affamés, à se précipiter dans la rue ou sur les ronds-points et aller faire brûler les Champs-Élysées, s'affronter avec à coups de pavé avec les CRS. Voilà, il y a une différence entre la France de 2018 et celle d'aujourd'hui.
C'est vrai que sans répéter ce que vient de dire Jérémy, Valentin, Il y a moins d'enjeux puisque Emmanuel Macron, de toute façon, s'en va en 2027. Ça, élection ou pas, à la limite, de toute façon, il ne se représentera pas. Est-ce que finalement, la crise des Gilets jaunes a aussi pris corps en raison de la personnalité d'Emmanuel Macron?
Ah, certainement, ça a sans doute beaucoup joué effectivement dans ce mouvement, parce que Emmanuel Macron, vous l'avez dit, Marc, dans votre livre qui vient de sortir, L'ampleur des dégâts.
Aux éditions Larcière. Merci, voilà, dis donc, Valentin, merci beaucoup.
Je suis très bon en,
achetez-le, chers
en publicité. Mais non, bien sûr, Emmanuel Macron avait cette particularité que c'était un homme seul qui a finalement, dans son rapport au peuple, il s'est présenté tout à fait seul, sans parti derrière lui, sans univers ni idéologie fixe. Donc il y a eu ce rapport peut-être un peu chimique à ce moment-là. Le bouchon a un peu sauté en 2018, absolument, avec les Gilets jaunes. Non, je crois que vous avez raison, je crois qu'on n'est pas du tout dans la perspective d'un nouveau mouvement comparable aux Gilets jaunes. Je crois que les Français n'attendent même pas vraiment la prochaine élection présidentielle pour renverser la table. Je crois qu'ils sont très désabusés. Je crois qu'ils savent que l'élection présidentielle de mai prochain ne va certainement pas aboutir à un miracle, et que quel que soit le candidat, il n'y a pas aujourd'hui...
Ça n'effacera pas la dette.
Je pense que chacun ressent qu'il n'y a quand même pas quelqu'un qui, aujourd'hui, sur la scène politique française, soit capable d'inverser le cours des choses par son talent, par une sorte de vision historique suffisante. Donc il y a... Pour citer Michel Maffesoli, le philosophe que nous connaissons, ce qu'il appelle une sécession plébis, une sorte de sécession de la plèbe, du peuple, qui est un peu très méfiant. Chacun est un peu dans sa petite vie à lui, essayant de protéger sa famille, de faire au mieux, d'encaisser au mieux les chocs qui surviennent, et les prix à la pompe évidemment vont être là aussi tout à fait, leur envolée va à nouveau conduire beaucoup de Français dans une situation encore plus précaire. Mais je crois que chacun est un peu dans une forme d'attentisme, en attendant peut-être un événement qui bouleverserait les choses, mais on voit pas très bien pour l'instant qui pourrait le faire advenir.
Ouais. Je pense qu'il y a un événement qui pourrait. On va partir. Je mets les deux pieds dans la thèse complotiste, mais je commence à l'entendre. Si la situation internationale venait à s'aggraver à tel point que le président Macron ait une tentation de solliciter un prolongement de son mandat. Là, je pense qu'à la minute où il met un orteil dans cette tentative de confisquer le pouvoir aux Français.
On repart en thermidor tout de suite, je pense.
Voilà, mais connaissant la personnalité, la psychologie de Monsieur Macron, et quand on se souvient de ce qui a été imposé aux Français pendant le Covid et la docilité des Français face, rappelez-vous quand même à l'épisode des, je parle même pas des masques, mais les fameuses auto-attestations pour qu'on devait signer soi-même et remettre au CSA.
Vous autorisiez vous-même à aller acheter une baguette de pain.
Et par contre, quand je faisais un footing, j'avais peur de faire au-delà d'un kilomètre, donc je devais faire des allers-retours dans ma rue.
Et de rester assis pour boire votre café.
Rester assis pour boire votre café. Les Français ont dit oui à tout ça, messieurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire que si dans six mois, le conflit s'aggrave, qu'il y a une intervention physique de l'armée française sur les points de conflit, et qu'on vient nous expliquer un soir à 20h en direct sur TF1 que finalement, au regard de la situation internationale, il serait peut-être de bon ton de décaler jusqu'à nouvel ordre les élections présidentielles. Moi, je connais un paquet de Français, de retraités centristes, qui seraient ravis, parce qu'en plus, ils verraient que cet enfant prodige dont je parlais tout à l'heure reprend le manche. Je crois que globalement, les électeurs d'Emmanuel Macron ont adoré Macron pendant les crises. Ont adoré Macron pendant les Gilets jaunes, ont adoré Macron pendant le Covid, et je pense qu'il y a des Français qui seraient ravis d'entendre le président Macron leur dire on décale, on n'annule pas les élections mais on les décale, en jouant sur les mots. Voilà, j'assume totalement ce biais un petit peu complotiste, j'espère qu'on en parlera pas dans 6 mois.
Sur cette antenne, voilà, vous avez parfaitement le droit de défendre les opinions que vous voulez, Jérémy.
Si tel était le cas, là je pense qu'effectivement on serait sur du Gilet jaune puissance 10.
Ouais.
Et voilà. Mais
après, moi, ce qui m'intéresse un peu dans cette crise des Gilets jaunes, c'est qu'on voit il y a eu plein de chefs différents qui sont sortis de cela, et Jérôme Rodriguez qui était proche de la France Insoumise mais qui n'a pas fait de carrière politique derrière, Priscilla Ludowski qui a tenté avec les écologistes mais ça n'a rien donné, Benjamin Cauchy qui a soutenu Dupont-Aignan et qui pareil ça n'a rien donné politiquement,
Jacqueline Mourot
effectivement qui est peut-être celle qui est politiquement été le plus visible, elle a rejoint Éric Zemmour avant de avant d'en claquer la porte avec ces mots absolument, avec cette engueulade absolument monumentale.
Conclu par ce Jacqueline Key.
Jacqueline Key, exactement. Ouais. L'avocat François Boulot qui avait fait un petit peu parler de lui aussi, mais finalement, il y a aucun de ses essais, aucune de ses personnalités n'a jamais réussi à incarner politiquement ce mouvement. Ils se sont tous répartis dans des formations politiques, d'ailleurs, ça va de l'extrême gauche à l'extrême droite, c'est assez intéressant là-dessus. Et finalement, ça n'a rien donné. Donc, comme si finalement, politiquement, ils ne pouvaient rien accoucher de cela. Valentin Gore.
Ah bah, rien à coucher, oui, c'est certain que c'est un mouvement qui est resté un peu lettre morte. Il y avait eu effectivement de diverses tentatives, y compris de listes aux élections européennes de 2019 qui n'avaient rien donné.
Aucun d'entre eux, n'a fini au Rassemblement National, alors que très naturellement, même si au tout début des Gilets jaunes, on pouvait penser que c'était plutôt un truc de cadre, même potentiellement macroniste, en fait, au tout début, puisqu'il y avait quand même le côté libéral, etc. Naturellement, c'était le RN qui rassemblait le mieux ces gens-là, quoi.
Oui, c'est vrai. Mais c'était plutôt une jacquerie qu'une révolution, sans doute. Et je crois que vraiment beaucoup de Français, notamment les Gilets jaunes, avaient une défiance par rapport non seulement à Emmanuel Macron, mais à ce que les gens appellent tout simplement Paris. Paris et aussi le système, comme on dit, qui finalement pour beaucoup de gens inclut aussi le Rassemblement National. J'insiste sur cette méfiance, moi, qui me frappe souvent. J'ai l'impression que le peuple français est devenu très très méfiant vis-à-vis de tout ce qu'on lui présente et qui demande à voir chat échaudé craignant l'eau froide, évidemment.
Alors l'autre sujet, bien évidemment, ce qui occupe un petit peu l'actualité, c'est en lien toujours avec l'énergie. Au fond, c'est le nucléaire. Incroyable ce qui est en train de se passer. On a eu entre 2017 et 2019 beaucoup d'écologistes dans l'entourage d'Emmanuel Macron. Je pense à la secrétaire d'État Brune Poirson, je pense même à Nicolas Hulot, on l'a oublié, qui a été ministre de l'écologie, François Drugy. On voyait au début un Emmanuel Macron anti-nucléaire. On se rappelle tous de la déclaration d'Édouard Philippe fermant Fessenheim. Et là, aujourd'hui, Emmanuel Macron dit... c'est pas possible. On a fait des erreurs. J'adore dans ce moment-là. Il y a toujours le on.
Le on.
Le oui. on, c'est
parce que ça englobe les Européens.
Oui, voilà.
Parce que c'est jamais lui, c'est l'Europe. Lui.
Ouais. Quand il s'agit de se tromper, c'est jamais lui. Et qui aujourd'hui, on a presque envie de dire, Emmanuel Macron est fou furieux contre le nul qui a fait fermer Fessenheim, pour reprendre le slogan d'un compte X qu'on apprécie. C'est tout Emmanuel Macron, en fait, le nucléaire, Valentin Gore.
Bien sûr, Emmanuel Macron et les hommes de son système. Vous avez cité Édouard Philippe. Moi, j'insiste volontiers sur Sébastien Lecornu, qui se présente aujourd'hui comme un premier ministre gaulliste, disant s'inspirer notamment de Pierre Messmer, qui est le créateur, effectivement, du parc nucléaire français, qui a lancé cette politique très courageuse lorsqu'il était lui-même à Matignon dans les années 70, au début des années 70, avec Georges Pompidou. On voit que Sébastien Lecornu, en 2017, a commencé sa carrière de ministre auprès de Nicolas Hulot, où il était un peu chargé. Lui, c'était le politicien qui était chargé un peu de canaliser les ardeurs de Nicolas Hulot, qui est un idéaliste, et on a vu à quel point ça l'a conduit vraiment au désastre. Donc Sébastien Lecornu, à l'époque, qui nous expliquait très doctement qu'il fallait absolument fermer Fessenheim, que le nucléaire n'avait pas d'avenir, et qui aujourd'hui se propose de le relancer, comme Emmanuel Macron, comme aussi Ursula von der Leyen, et ça c'est très savoureux.
Je vous coupe, Valentin, pardon, mais vous avez raison, et j'avais complètement oublié. Il a commencé effectivement secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire.
Ah oui, bien sûr.
On sera là qu'on se rappelle de lui comme ministre des Armées, mais du coup, je profite de l'insiste, pardon. Après, il a été ministre chargé des collectivités territoriales jusqu'en 2020, ministre des Outre-mer jusqu'en 2022, et en fait, il n'est ministre des Armées que, entre guillemets, depuis 2022.
Oui, il n'est pas resté si longtemps que ça, finalement, par rapport à certains de ses prédécesseurs. Mais oui, simplement, je termine sur Ursula von der Leyen, qui était présente lundi à ce sommet du nucléaire qui était organisé à Boulogne-Billancourt par Emmanuel Macron, et qui elle-même a dit « Oui, il faut qu'on revienne à l'énergie nucléaire », ce qui est tout de même savoureux pour quelqu'un qui a été la ministre, l'une des ministres favorites d'Angela Merkel, qui elle-même a fait encore bien pire qu'Emmanuel Macron, puisqu'on se souvient qu'en 2011, elle a quand même condamné l'énergie nucléaire après Fukushima en disant qu'il fallait fermer absolument toutes les centrales, tout ça pour essayer de prendre 3% 1% de voix aux écologistes qui lui damaient le pion à l'époque. Donc on voit que finalement, c'est peut-être un syndrome CDU. Et finalement, le macronisme est une sorte de CDU à la française, c'est-à-dire de fausse droite qui va un peu dans tous les sens. Et on voit que les mêmes mots ont produit les mêmes effets.
Sans la culture de la coalition.
Absolument.
Ce qui est fantastique, la question à se poser, c'est que va-t-il rester, si on se projette à 20 ans, que va-t-il rester du macronisme ?
Rien.
Quand on pense à Jacques Chirac, on pense au refus d'engager les troupes françaises en Irak en 2003. Quand on pense à Mitterrand, on pense à la construction européenne, à Maastricht, la chute du mur de Berlin,
avec Helmut Kohl.
Voilà.
Oui, il y a quand même
Mitterrand a marqué son histoire. Giscard, malheureusement pour lui, on pense au regroupement familial. Mais quel sera le bilan d'Emmanuel Macron qui aura fait deux mandats, si ce n'est, encore une fois, toutes ces petites niaiseries, lubies sociétales, donc l'inscription dans la Constitution de l'avortement. Sans doute, on y aura droit avant la fin de son mandat, voilà, une loi sur la fin de vie. Mais effectivement, si il était resté droit dans ses bottes et que justement, il ne s'était pas trahi lui-même, on aurait pu justement parler du nucléaire en disant qu'il avait fait un choix fort. La moitié des Français, en tout cas les gens de droite, auraient été farouchement opposés à cela. Mais ça aurait contribué à synthétiser son action politique et ses deux mandats présidentiels. Mais à force de manger son chapeau et de revenir sur tout ce qu'il a, de détricoter tout ce qu'il a tricoté patiemment, en fin de compte, je me demande quel sera son bilan.
1000 milliards de dettes. Moi, je pense très objectivement. Alors, tout le monde dit c'est Bruno Le Maire, monsieur 1000 milliards. En réalité, je pense que celui qui portera ça, je pense que Emmanuel Macron sera vu dans l'histoire comme le président qui a ruiné la France.
Oui, il est comptable de tout, évidemment.
Je pense vraiment que c'est la seule chose qui retiendra. Parce que même le côté, l'espèce de posture internationale, la stature internationale qui se donne, on prend toutes les décisions diplomatiques les unes après les autres, elles ont été catastrophiques.
Il a été humilié partout, par tout le monde.
C'est ça.
Voilà, bien sûr.
Alors, sur la séquence iranienne, il y a. En fait, il a quand même un sens du spectacle, Emmanuel Macron. La séquence de la Marseillaise devant les fonds
de la mise en scène.
Alors, il faut admettre que la vulgarité, ça foutait les poils, un petit peu quand même. Je crois que vous n'êtes pas d'accord. Les Jeux Olympiques de Paris ont été plutôt un succès.
Magnifique.
Autant, Marc, je ne vous suis pas du tout. Oh, la cérémonie, j'avais oublié la cérémonie.
Parce que les images des trois avions au-dessus du Mont Saint-Michel ne m'a pas empêché de dormir. Après, effectivement, sur les Jeux Olympiques, c'est très bien. Mais bon, c'est pas non plus Emmanuel Macron. Les Jeux Olympiques ont été financés par l'argent des Français.
Non, mais très bien.
Donc, les Français qui les ont organisés.
C'est Giscard d'Estaing qui a décidé tout seul du regroupement familial. Et c'est pas Jacques Chirac tout seul. Ce serait plutôt Dominique de Villepin. Puisque vous jouez sur les mots, vous avez essayé de m'emmerder.
Allez, je m'en vais.
Non, restez là.
Nicolas Boutin.
On va passer à Nicolas Boutin dans 3 minutes. Mais c'est vrai, juste très rapidement sur la crise internationale en cours. C'est vrai que. C'est terrible. Enfin, Emmanuel Macron, on dit, regardez, Emmanuel Macron, il profite de la situation internationale pour enjamber les échéances politiques nationales et pour se mettre en avant, etc. Mais on a envie de dire, ok, très bien, admettons, c'est l'inverse de Napoléon III. C'est un peintre en politique intérieure, mais il est plutôt brillant diplomatiquement. Mais la diplomatie d'Emmanuel Macron, l'Afrique, l'Afrique, il a fait 100 fois pire que François Hollande. Ouais. François Hollande qui, paradoxalement, on s'aperçoit par rapport à Emmanuel Macron qu'il était plutôt compétent sur les questions internationales en plus. Il reconnaît l'existence de l'État palestinien, mais ça pareil, ça aurait pu être une posture gaullienne, la solution.
Bien sûr.
Il fait ça après le massacre du 7 octobre, évidemment. Donc tout ce qui donne l'impression en fait de céder face au Hamas après avoir fait déclarer à l'intégrité de son camp que le soutien à Israël était inconditionnel. Enfin, on dit soutien inconditionnel à Israël et en même temps on reconnaît l'État palestinien. En Ukraine, je rappellerai même pas que les Ukrainiens ont inventé le verbe macroner pour désigner des promesses jamais suivies des faits. Enfin, si vous voulez,
qui le prend encore au téléphone? Quel chef d'État étranger le prend encore au téléphone? On voit aujourd'hui tous les jours que l'Allemagne et l'Angleterre se parlent sans lui, que Madame Meloni le méprise. Vous parlez de Monsieur Zelensky en Ukraine, je pense qu'il en est revenu également. Poutine se moque de Macron.
Alors,
tous les jours à la télé russe.
Macron se rencontre aujourd'hui ou demain.
Oui, mais parce que là, encore une fois, je reviens à mon storytelling. Par exemple, comment vous l'avez appelé le récit.
Le récit politique.
Du côté de Zelensky, on est quand même obligé de montrer, donc saisir les mains tendues. Parce que l'un comme l'autre se rendent service. Je pense que côté Zelensky et Macron, je pense que puisque le téléphone ne sonne plus par ailleurs, les deux, à mon avis, vont être amenés à se voir très régulièrement. Mais voilà, toutes les grandes puissances européennes et du monde. Je parlais de Poutine, de Trump, à mon avis, qui a aujourd'hui autre chose à faire. Je ne suis pas sûr que M. Netanyahu sache qui est Emmanuel Macron. Donc aujourd'hui, sur le
Qu'il a reconnu l'État palestinien, je peux vous dire qu'en Israël, tout le monde sait qui c'est Macron.
Voilà, exactement. Je suis pas intimement convaincu qu'il ait laissé, vous l'avez évoqué, je crois que c'est vous Valentin, là, en Afrique, je pense qu'il est plutôt méprisé, moqué, snobé. Ah, et voilà le bilan total de Macron dont je parlais tout à l'heure, sur les 10 années de présidence, il y a un bilan diplomatique dont il est comptable qui est absolument catastrophique en tout point.
Mais surtout l'Afrique, ce qui est terrible, alors il y a évidemment cette séquence absolument hallucinante où on a Jean-Noël Barrot qui arrive chez nos vieux alliés tchadiens, qui arrive, qui donne une leçon de démocratie à tout le monde, qui s'en va, il est monté dans l'avion, le Tchad publie un communiqué en expliquant qu'il donnait très peu de temps aux troupes françaises pour décarrer du pays le plus vite possible. Il y a ça, et surtout, il y avait cette espèce d'énorme occasion manquée. Alors, je ne suis pas dans le secret des dieux, des renseignements, de l'armée, de machin, mais... puisque nous avons décidé d'avoir une attitude offensive vis-à-vis de la Russie, puisque visiblement nous redémarrons une guerre froide, on avait une présence française, Wagner qui commençait à s'implanter, et nous, au lieu de s'opposer, au lieu justement d'affirmer notre présence militaire et d'infliger aux Russes une défaite au moins stratégique sur le continent africain, on a déserté le continent, on leur a laissé tout le loisir et toute l'attitude de s'installer, alors même qu'on aurait pu jouer justement, puisqu'on on essayait de jouer les muscles, il y avait ce théâtre-là où on aurait pu, sans aller jusqu'au conflit ouvert, mais en tout cas, au moins faire acte de présence et dire nous n'abandonnerons pas nos partenaires africains aux mains des Russes, quoi. Et c'est même ça, on ne l'a pas fait. Et c'est ça que je ne comprends pas, moi.
Non, bien sûr, vous avez raison. Bah, je crois que sur l'Afrique, ce qui a été la grande erreur d'Emmanuel Macron, c'est de substituer, d'essayer de contourner souvent les présidents africains en s'adressant à ce qu'il appelle les sociétés civiles africaines, ce qui a été une erreur, parce qu'à mon avis, il fallait rester vraiment dans des relations bilatérales et les travailler, et cesser effectivement de parler de valeurs. Vous avez très bien rappelé cet ambassadeur aux droits LGBT qui se promène dans les pays africains pour aller
demander
voir
aux militaires
des présidents africains qui souvent ont 80 ans, pour leur expliquer qu'il faut organiser des gay pride dans leur pays. Donc c'est absolument insultant, c'est vraiment pour les pays africains, c'est une forme de néocolonialisme finalement, où on va leur expliquer ce qu'il faut faire ou ne pas faire chez eux. Mais Emmanuel Macron, alors, ce qui est tout de même intéressant, bah, je vais citer pour une fois Dominique de Villepin, que j'entendais à la radio, dire, et je crois qu'il n'a pas tout à fait tort, qu'il faut 30 ans pour faire un bon président de la République. Et monsieur Macron, il a dû se faire à l'exercice en 3 mois, plus ou moins, et sans avoir le recul qu'avait ne serait-ce que Jacques Chirac ou François Mitterrand, qui, même s'ils ont fait beaucoup d'erreurs, avaient quand même un tout petit peu d'expérience qui leur permettait d'éviter de tomber dans tous les pièges dans lesquels Emmanuel Macron est tombé, c'est vrai, les uns après les autres. Et de moins en moins, c'est vrai, parce que je pense que quand même, au bout de 9 ans, peut-être on apprend un tout petit peu à ne plus refaire les mêmes erreurs. Et le léger mieux qu'on voit dans cette fin de second mandat est peut-être dû à ça, à un peu d'expérience, tout simplement.
Et un peu moins de formules provocantes, ne pas dire d'insultes directes.
Ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien.
C'est toujours un mieux. Oui, mais voyez, mais même cette phrase, après on va passer à la rubrique de Nicolas Boutin, mais voyez, même cette phrase, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont moins. J'ai envie de dire, mais à la limite, cette phrase, elle s'assume. Et de dire, voilà, écoutez, moi, je suis du côté de ceux qui ont réussi et je veux faire en sorte que ceux qui ne sont rien réussissent aussi.
La phrase est donc incomplète.
Ouais,
on est d'accord.
Au lieu de profiter, il y avait un aspect positif à cette phrase. Et d'ailleurs, en se mettant du côté des gagnants, il s'assume aussi une légitimité politique, si vous voulez. Mais le problème, c'est que de cette phrase-là, au lieu d'en faire justement une espèce d'ascenseur social, un espèce d'ascenseur politique en disant c'est à ceux qui ont réussi d'attraper ceux qui ne sont rien, ça a juste servi à fracturer davantage parce que c'était pas du tout, encore une fois, un positionnement politique, c'était une phrase jetée en l'air de mépris social un petit peu équivalente à celle des descendants de François Hollande, alors même que François Hollande, pour le coup, a quand même 45 ans d'expérience politique derrière lui. Restez avec nous, chers auditeurs, vous êtes toujours dans l'émission Restons Courtois, animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Je suis avec Jérémy Bouille et Valentin Gore. Nous allons à la rencontre de Nicolas Boutin, avec qui nous allons faire un point sur les municipales. Mais tout d'abord, un petit message de votre radio.
Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais, jamais donné, même pas 5 euros. Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016, Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux.
Restons courtois, Marc Hainaut.
Et de retour sur le plateau de Restons Courtois, animé comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles à l'antenne de Radio Courtoisie. Je suis avec Jérémy Bouille et Valentin Gore et nous recevons Nicolas Boutin, rédacteur en chef de VA Région. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Marc, bonsoir à tous.
Avec le casque, ça marche mieux. Vous m'entendez bien, Nicolas?
Oui, très bien, merci.
Je me disais aussi, tiens.
Poliment.
Merci. Merci d'être avec nous, Nicolas. Vous avez donc toute une équipe de collaborateurs dispatchés un petit peu partout sur le territoire national pour suivre justement ces élections municipales. Avec vous, on va parler essentiellement de la droite. Plusieurs enjeux, notamment à Lyon. On avait annoncé Grégory Doucet totalement perdant, largué dans les sondages par Jean-Michel Aulas à la tête d'une énorme coalition allant grosso modo de Renaissance jusqu'à LR, en passant par tous les micro-partis du socle commun, un peu société civile aussi. Et là, on voit, dernier sondage, une remontada, comme on dit en football, avec le maire sortant écologiste Grégory Doucet qui a grappillé 9 points en quelques semaines et se rapproche de Jean-Michel Aulas. Qu'est-ce qui marche pas avec la candidature de l'ancien président de l'Olympique Lyonnais, Nicolas Boutin ?
Mais écoutez, c'est vrai qu'il a commencé tôt, peut-être trop tôt, c'est peut-être ce que certains de son entourage commencent à reconnaître, avec un effet de mode assez saisissant, c'est-à-dire qu'il y avait eu une certaine popularité de Jean-Michel Aulas, qui a fait les grandes heures de l'Olympique Lyonnais, du club de football local, qui était le mieux placé pour battre le maire sortant Grégory Doucet, qui était capable de rassembler tout le monde, qui tantôt donnait des gages à gauche, tantôt des gages à droite. Un coup sur l'immigration, il fait une sortie pour dire qu'il y a peut-être trop d'immigration incontrôlée. De l'autre côté, à gauche, pour parler du logement ou de mesures écologiques. Et finalement, tout ça a donné lieu à beaucoup de campagnes un peu brouillonnes, avec beaucoup d'effets d'annonce dans la presse qui a peut-être fatigué l'électorat. C'est-à-dire qu'on a eu pas mal de grandes annonces, un méga tunnel qui ne relève pas des compétences du maire, mais celui du président de la métropole.
Ouais, mais pour autant, je ne comprends pas, Nicolas Boutin, il est quand même conseillé par des personnalités politiques expérimentées. Jean-Michel Aulas, il n'est pas tout seul à prendre des décisions.
Des proches d'Emmanuel Macron, des élus LR bien implantés, mais il semblerait qu'il a du mal quand même à endosser le costume de politique et de candidat, et c'est ce que l'on a vu notamment pendant le débat sur BFM TV, le seul et unique débat qu'il a accepté de faire. Il y a eu des rendez-vous manqués aussi, c'est-à-dire qu'il y a des interviews chez nos confrères de RCF où il n'est pas venu au dernier moment sans motif valable, ce qui est très agaçant et qui et en fait son âge joue, en fait malheureusement on en a déjà un petit peu parlé, mais il apparaît un peu fatigué. Alors là, il a donné un meeting, il a jeté toutes ses dernières forces dans la bataille lors d'un dernier meeting mardi.
J'ai hésité à vous isoler le moment, chers auditeurs, notamment la Marseillaise, mais c'était tellement gênant que je me suis dit qu'on allait perdre tous nos auditeurs en une minute. C'était
aux armes.
Voilà, Jérémy.
On voit qu'il a jamais joué en équipe de France, c'est sûr. Mais faut pas oublier quand même qu'il a repris un petit peu du poil de la bête durant ce meeting-là. Il a été assez offensif, plutôt bon. Certains diront merci au prompteur. En tout cas, il a retrouvé un petit peu ce qu'il avait fait. Mais il n'y avait plus que 1500 personnes dans la salle, ouais. Là où il y avait 3000 en octobre lors de son lancement de campagne. Et donc on voit que ça s'érode, ça s'effrite. Et pendant cela, Grégory Doucet, lui, il a investi les réseaux sociaux. Il répond point par point à toutes les attaques et surtout à toutes les promesses de Jean-Michel Aulas. Et contre-attaque, et ça a l'air de fonctionner.
Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se laisse pas, c'est qu'il s'avoue pas vaincu, le Grégory Doucet, ouais.
Non, au contraire, et puis vous voyez, quand on parle de l'âge de Jean-Michel Aulas, Grégory Doucet, lui, il enfile un maillot de football et puis il va jouer sur un terrain de foot. Il montre un petit peu une dynamique, alors qu'il a 52 ans quand même. Mais il montre une certaine, voilà, un dynamisme, une jeunesse, qui pourrait lui permettre de se démarquer. Il est resté un petit peu finalement en dehors des polémiques. Et aujourd'hui, donc, on a 43% pour Jean-Michel Aulas selon le dernier sondage, 35% contre Grégory Doucet. Il partait quand même autour de 20%.
Il a quand même un électeur sur 3, quoi. En fait, c'est quand même pas rien pour un premier tour.
Une dynamique quand même très importante. On est sur du 47-53 au second tour, avec moins de points pour Jean-Michel Aulas, plus de points pour Grégory Doucet. Donc maintenant, ça va être un référendum, puisqu'on le voit qu'on se dirige vers un duel et que le candidat UDR, RN, d'après le dernier sondage, est à 6%, malgré franchement une bonne campagne.
Un bon débat, et puis un très bon débat, une très belle prestation.
Exactement. Mais ça n'a pas l'air de suffire, puisque le vote utile a l'air en fait de jouer sur ceux qui veulent virer les écolos de Lyon. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant? Et l'écart se resserre, les dynamiques sont maintenant en faveur de la gauche. Et c'est quelque chose qui était encore inimaginable il y a 2 mois.
Mais Jérémy Bouy, vous qui connaissez bien la région, c'est le moins qu'on puisse dire, comment vous vivez ça en tant que quasi-lyonnais?
Oui, j'ai rien de mieux, rien de plus à apporter à ce qu'a dit Nicolas, qui a tout synthétisé. Effectivement, je souscris à toute l'analyse. Parti beaucoup trop tôt. Bon, il était obligé, à mon avis, de fermer la porte à droite. Donc, je pense qu'on de lui-même, je me suis laissé dire qu'il voulait attendre, mais qu'on lui a déconseillé puisque ça allait donner des envies à certains. Donc, il y est allé très tôt pour pouvoir fermer la porte et être le plus légitime. Et vous avez utiliser le mot très important. Voilà, aujourd'hui, c'est un duel, c'est un contre un entre Doucet et Aulas. Je pense que cette déclaration très rapide était censée justement faire table rase et enlever toute velléité d'autres candidats potentiels.
Mais voilà. Là où c'est raté, c'est quand même Jean-Michel Aulas. Alors moi, je suis un peu le foot, mais je ne suis pas lyonnais du tout. Jean-Michel Aulas, c'est comme une personnalité qui aurait pu susciter l'adhésion autour de lui. Et là où je trouve que Nicolas Boutin a raison, c'est qu'on n'est plus sur la personnalité d'Aulas qui peut capitaliser. C'est devenu effectivement un référendum pro ou anti-Doucet.
Voilà, c'est ça. Il faut dire deux choses, Marc. Un, Monsieur Aulas est très vieux et il fait très vieux, comme Nicolas l'a évoqué, et il faut aussi le dire, et les Lyonnais le savent, Jean-Michel Aulas nous a fait rêver, je m'englobe dans le nous, enfant, adolescent, j'ai vénéré, idolâtré Jean-Michel Aulas comme un Marseillais a idolâtré Bernard Tapie, voilà, mais l'histoire c'est très mal finie, l'histoire c'est très mal terminée, et l'Olympique Lyonnais, aujourd'hui encore, est dans une situation absolument catastrophique, les finances sont en état apocalyptique. L'Olympique Lyonnais, aujourd'hui encore, peut déposer le bilan. Et Jean-Michel Aulas, malheureusement, a une immense responsabilité dans ce marasme économico-financier, puisque ce sont les choix, les décisions de Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas a tout créé à l'Olympique Lyonnais, mais il est aussi responsable aux premières loges de cette chute. L'image qui me vient en tête, c'est la chute d'Icare. Voilà, il est monté trop haut, il a voulu monter trop haut et toucher le soleil, et il a explosé en vol, et l'Olympique Lyonnais avec lui. Et les Lyonnais le savent. Donc, vous avez aussi dans son bilan global voilà, les heures de rêve, les heures de gloire, mais aussi cette conscience que le club aujourd'hui est dans une situation précaire, parce qu'il s'est, il faut le dire, beaucoup, beaucoup trompé.
On va quitter Lyon, à moins que Valentin Gore ait quelque chose à rajouter sur Lyon.
Peut-être simplement une remarque sur Jean-Michel Aulas. Moi, je dirais que c'est aussi l'écueil de la société civile, où on voit bien que finalement, quand on se présente avec seulement un discours qui est un peu un discours d'école de commerce, quoi, finalement, demain sera mieux qu'aujourd'hui, allons de l'avant, ça va être formidable, qui n'a pas vrai en marche,
un nouvel horizon,
voilà,
une nouvelle énergie.
On peut pas se contenter de ça. Il faut quand même du fond. Il faut quand même, à un moment donné, adhérer à une famille au moins philosophique qui existe dans la politique française. Pas forcément un parti, mais quand même se rattacher, je dirais même à une idéologie. Voilà. Ensuite, on peut ouvrir. Et je crois que c'est important à Lyon, parce que Lyon a toujours eu des maires très pragmatiques, hein, que ce soit Gérard Collomb à gauche ou Raymond Barre à droite, mais qui étaient quand même ancrés quelque part, qui n'étaient pas seulement dans un univers de pure communication et de publicité, là encore, qui fait très commercial et qui vraiment donne pas très envie de rejoindre Monsieur Aulas.
On va passer.
Ça montre aussi que quand aujourd'hui on cherche de nouvelles méthodes pour faire de la politique, ça montre qu'on ne fait pas de la politique comme on est chef d'entreprise.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, lorsque Jean-Michel Aulas est arrivé au débat, il aurait peut-être fallu lui dire qu'on n'était pas un rassemblement des cadres du MEDEF, mais qu'on était un débat politique et où tous les coups seraient permis et que ça viendrait bien évidemment de tous les côtés. Surtout lorsqu'on est en tête des sondages, on est généralement la cible principale de ses opposants. On va passer à Nice. J'allais dire, c'est beaucoup plus joyeux. En réalité, la campagne est extrêmement violente, mais en tout cas, elle va de rebondissement en rebondissement. Alors, on passe un peu sur le début, les débauchages stratégiques d'un côté comme de l'autre. Éric Ciotti qui va chercher un fidèle, Christian Estrosi qui va chercher un ancien fidèle, Éric Ciotti. Et là, on a cette affaire absolument incroyable, Nicolas Boutin, l'affaire de la tête de porc. En réalité, je vais essayer de raconter l'anecdote sans rigoler, parce que vraiment, on touche le fond de la politique. Christian Estrosi retrouve devant son domicile une tête de porc avec des insultes antisémites dessus, évidemment allusion à l'engagement visible et fort de Christian Estrosi contre l'antisémitisme et en faveur d'Israël. Et là, on a deux choses. Déjà, cette attaque, pour ne pas dire, enfin, cet attentat, on va dire, symbolique, a priori, aurait des origines assez douteuses, Nicolas Boutin.
Ah oui, parce qu'en fait, ça se joue en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'il y a évidemment donc, cette provocation qui indigne légitimement un petit peu tout le monde. Et puis, l'enquête avance. Ce sont deux ressortissants tunisiens qui sont soupçonnés et interpellés dans un premier temps. Sauf que il se trouve que ces deux personnes, ces deux suspects, font partie, en tout cas ont été vus de nombreuses reprises autour de l'entourage de campagne de l'équipe de campagne de
Christian Estrosi.
Christian Estrosi se défend dans un premier temps, dit qu'il y a peut-être eu une infiltration de sa campagne, une ingérence, et que donc on serait sur un coup monté. Mais le nouveau coup de théâtre ce matin, puisqu'on apprend le placement en garde à vue d'un proche du couple Estrosi et d'un second proche qui est un ancien agent du renseignement.
La bonne vieille barbouzerie à la niçoise.
Incroyable.
Comme on aime. C'est vraiment.
On n'a pas changé d'époque, finalement, à Nice.
Non.
Et c'est vrai qu'à Marseille, on pourra en parler après, mais c'est aussi ce dont on peut craindre.
On en parlera de Marseille.
On se retrouve là avec un scénario qui vient complètement plomber la fin de campagne de Christian Estrosi, qui, très sincèrement, avait plutôt repris du poil de la bête. En tout cas, s'était montré beaucoup plus offensif là, depuis 10 jours. Et qui avait plutôt passé sans encombre les preuves des débats. Vous savez, c'est quand même les retrouvailles de duels fratricides entre Éric Ciotti et
Les pauvres têtes de liste de la gauche ont fait office de faire valoir. C'était absolument gênant, d'ailleurs.
Une plante verte, oui, ouais, c'était bon.
Vous dites ça parce qu'elles sont écolo.
Oui, exactement. Mais en tout cas, voilà, et effectivement, ce Estrosi avait plutôt passé ces épreuves sans trop de chahut, on va dire, parce que Éric Ciotti, lui étant donné maintenant favori de ce sondage, Christian Estrosi a essayé de rattraper son retard ces derniers jours, mais là, il se pourrait que cette fin de campagne, ces dernières heures de campagne, parce que je le rappelle, elle s'arrête demain soir,
absolument,
officiellement la campagne, est plombée par cette affaire qui est à la fois effectivement prête à sourire, mais qui en même temps est bien dramatique. Sur les conditions de faire campagne et sur l'état de la politique aujourd'hui, quand on voit que certains sont prêts à tout.
Et surtout, il y a cette vidéo qui est sortie, qui émerge sur les réseaux sociaux, où on voit Christian Estrosi auprès des habitants du quartier des Moulins s'excuser pour ses propos sur la Palestine et sur Israël. C'est abominable parce que c'est le pire de la politique politicienne, c'est être publiquement un soutien d'Israël et ensuite aller dans les quartiers et dire pardon si je vous ai vexé sur la Palestine, quoi.
C'est
extrêmement gênant.
Dans les débats, qui n'a jamais soutenu Emmanuel Macron, alors qu'il a été l'un de ses plus grands soutiens parmi les élus locaux.
Et qui a marqué vice-président d'Horizon sous le truc, quoi.
Bien sûr. Ça a été... Maintenant, rien n'est acté parce que Christian Estrosi tend la main à gauche. Il, évidemment, dans ses rêves les plus fous, il a envie de refaire le coup des régionales en 2021, c'est-à-dire pour barrer la route au Rassemblement national et donc à l'UDR de Éric Ciotti. On va demander à la gauche de se retirer et puis peut-être qu'on leur fera un petit conseil municipal sans pouvoir et sans prérogative, où ils pourront se réunir et échanger, et il leur permettra de reprendre leurs belles idées. On a vu que ça donne en région sud maintenant, où la gauche est désormais inexistante, mais c'est pas pour autant qu'une politique de gauche s'est faite. Donc ils sont prêts aussi tous les accords possibles pour garder ce siège. Et la mairie de Nice, si elle tombe demain, sera aussi un grand symbole. Avant 2027.
Enfin, quand vous en êtes au point de demander des accords avec la gauche avant même les résultats du premier tour, c'est que, enfin, ça panique sévère quand même, Nicolas.
Vous savez, parfois il y a beaucoup de vent sur la promenade des Anglais et donc du coup on est beaucoup moins serein et pour marcher droit c'est très difficile et c'est vrai que on le sent un petit peu tremblant, Christian Estrosi ces derniers jours.
On va suivre la Tramontane, Nicolas Boutin, jusqu'à Marseille. Là aussi, Il y a des soupçons un petit peu louches. On parle de possible fraude électorale. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus aujourd'hui?
En tout cas, c'est un véritable risque, et c'est surtout les équipes du Rassemblement national qui sont en train de faire monter la pression auprès du préfet et de la mairie pour l'organisation qui demande une véritable vigilance sur le déroulement du scrutin de ce dimanche et tout particulièrement le dimanche prochain lors du second tour. Parce que à Marseille, vous savez, c'est la ville où on a découvert que des résidents d'un EHPAD malades et affaiblis ont voté contre leur gré il y a quelques années. C'est la ville où l'urne de bulletin de vote a été volée par des gens armés d'une Kalachnikov en plein vote. C'est la ville où les bureaux de vote peuvent ouvrir 2 heures plus tard, où des bulletins peuvent manquer. Enfin voilà.
C'est Baron Noir saison 4.
C'est Baron Noir saison 4. C'est un petit peu ça, avec un peu plus de soleil qu'à Dunkerque quand même.
Voilà.
Mais effectivement, donc il y a un risque, il y a une véritable crainte qui émerge autour de cette campagne. Il y a même des rumeurs qui courent. Je ne vais pas les proliférer ici, mais sachez que moi j'ai le nom d'un bureau de vote en particulier qui pourrait se faire voler l'urne dimanche. Hein, c'est une rumeur, hein, bien entendu, jusqu'à ce que ça se produise éventuellement. Il y a des soupçons qui sont portés sur tel ou tel secteur, donc sur tel ou tel candidat, et donc tout ça donnait lieu donc à un signalement auprès du préfet, parce qu'il faut savoir aussi qu'il y a eu un bond incroyable d'inscription sur la liste électorale. On est à plus 9%, je crois qu'on est à plusieurs dizaines de milliers, à 47 000 inscriptions en plus, alors qu'on a autour de 10 000 personnes qui viennent d'arriver à Marseille sur la dernière mandature. Il y a quand même il y a des personnes qui sont centenaires. La doyenne de l'humanité apparemment peut voter à Marseille, et elles sont plusieurs comme ça à être avoir plus de 100 ans, voire plus de 100.
C'est la bouillabaisse qui conserve, vous n'y connaissez rien. C'est Marseille, la ville avec le plus de centenaires en France, c'est formidable.
Mais la doyenne de l'humanité, vous vous rendez compte, elle est à Marseille, mais personne ne le sait.
Elle a 342 ans.
Non, mais voilà, donc il y a vraiment ce risque qui plane et qui pourrait, une nouvelle fois, venir un petit peu perturber ce qui est l'un des points chauds principaux en France, c'est-à-dire que c'est le risque de pour la gauche de voir le Rassemblement national diriger une ville comme Marseille. Et il est vrai que il faudrait pas, il serait pas dans l'intérêt de la gauche, je pense, que leur courte victoire, si elle devait arriver le soir du second tour, soit entachée par des soupçons de fraude, parce que alors là on aurait vraiment une ville ingouvernable.
Et si nos auditeurs voudraient suivre les municipales sur Valeurs Actuelles, Nicolas Boutin, on suppose que vous avez prévu un dispositif. En 2 minutes, pouvez-nous vous expliquer?
Eh bien, rendez-vous dimanche soir sur le site et les réseaux sociaux de Valeurs Actuelles. Nous serons à Marseille, donc à Lyon, à Paris, à Toulon, à Perpignan, à Segré, à Roubaix, pour avoir quelques surprises, et nous donnerons évidemment les résultats des principales villes, à Nice, à Menton, à Toulouse, à Béziers, à Rennes,
Bordeaux, Versailles, Grenoble, Bastia, Nîmes, Montpellier, Rennes, Romans-sur-Isère, Strasbourg et Pau. Je crois que j'ai oublié personne.
Exactement, normalement non, et ça va être très important parce que on va à la fois vous faire vivre l'ambiance dans les QG, les résultats, et puis l'analyse politique de nos journalistes, et donc qui seront sur place et mobilisés pour vous. Donc rendez-vous sur Valeurs Actuelles vendredi à partir de midi, et puis avec un peu plus d'intensité dans la soirée.
Et le service politique sera évidemment mobilisé. À titre personnel, je serai en bon parisien oblige, et en même temps, en tant que rubricaire Reconquête, je serai dans le QG de campagne de Sarah Knafo, et nous suivrons dans le QG de Reconquête, le premier tour de ces élections municipales à Paris. Merci Nicolas Boutin pour ce petit tour des élections municipales partout en France, dont on rappelle que le premier tour a lieu ce dimanche. Merci à vous, à très bientôt. On va retrouver Rodolphe Carr dans quelques instants, avec nous reviendrons plus principalement sur la gauche. Simplement, avant le traditionnel message de notre radio, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du Havre. Très rapidement, parce que je dis ça parce que Valentin Gore est allé au Havre, il s'est entretenu avec Édouard Philippe, vous avez pu avoir un petit point de vue sur la situation, parce que enjeu à très très grand risque pour
Édouard Philippe. Parce que vous savez qu'il y a eu un sondage il y a maintenant une dizaine de jours qui le donne perdant au deuxième tour. Pour être assez bref, alors il y a trois forces importantes en présence au Havre, évidemment Édouard Philippe, son adversaire le député communiste du Havre Jean-Paul Lecoq. C'est vrai que le Havre a longtemps été dirigé par les communistes, en réalité jusqu'en 1995 où Antoine Rufnak avait repris la ville pour le compte du RPR, puis ensuite ça a été Édouard Philippe, et celui qui va entre guillemets compter les points dans ce second tour, c'est le candidat UDR-RN Franck Keller qui finalement va se maintenir, ça c'est sûr, au second tour, et donc tout l'enjeu sera de savoir si les électeurs du RN et dirons-nous des LR un peu fermes vont préférer faire perdre Édouard Philippe au risque d'avoir un maire communiste pendant 6 ans, ce qui n'est quand même pas la panacée, ou s'ils vont finalement quand même se rallier à Édouard Philippe dans une sorte de front contre les communistes.
Jérémy Bouy.
Vous savez, pour être allé plusieurs fois au Havre, je crois que même les gens de droite savent apprécier l'héritage de la gouvernance communiste, de la mairie communiste. Si vous voulez, il y a au Havre un sentiment, une architecture, une âme que vous retrouvez nulle part ailleurs.
Ah, dans l'architecture. Oui.
Voilà, et très sincèrement, encore une fois, en laissant traîner mes oreilles, j'ai l'impression, vous venez de dire qu'on est face à deux situations possibles, j'ai quand même l'impression que les gens de droite auraient très envie de voir Édouard Philippe se prendre les pieds dans le tapis au Havre, quitte à repartir avec un mandat de mairie communiste, mais au moins on élimine Édouard Philippe de la course à la présidentielle de 2007.
Oui, c'est toujours la question que vous habitez quand même la ville, quoi. Donc,
c'est quand même compliqué pour Édouard Philippe, qui parle souvent du Havre, qui retourne au Havre et qui fait toutes ses images au Havre, de se faire, voilà, pardon,
botter
les fesses à domicile chez lui.
Écoutez, il a évidemment un appartement au Havre, mais je trahis pas de secret en disant que évidemment, il vit la plupart du temps avec sa famille qui est à Paris, qui est basée à Paris.
Amusant parce que c'est ce que vous rappelez, mais c'est l'argument qu'il utilise contre
Franck Keller, qui effectivement elle s'est fait élire en 2020 conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine. Donc c'est vrai que finalement, on a au moins deux candidats sur trois, je sais pas où habite le candidat communiste, peut-être aussi à Neuilly-sur-Seine.
Ce que
nous disons là pour Édouard Philippe a valu pendant des années pour quantité de maires qui avaient un destin national. Je pense à Alain Juppé, je pense à Martine Aubry, par exemple.
Et c'est l'héritier d'Alain Juppé, d'ailleurs, c'est ça qui est amusant,
bien sûr.
Ici,
évidemment, ils avaient évidemment un logement dans leur ville, quand même passé le plus clair de leur temps à Paris. Et je parle pas de Christian Estrosi, qui est particulièrement connu, hors période électorale, pour être très présent à Paris et peu présent à Nice.
Bien sûr. Et ce sera le mot de la fin pour cette séquence. On va recevoir Rodolphe Carr, auteur notamment de l'essai Le bruit et la fureur, un essai sur Jean-Luc Mélenchon. Avec lui, nous reviendrons sur ce que peut faire la gauche pendant cette séquence politique. Mais tout de suite, chers auditeurs, un petit message de votre radio.